figli di lui, bisogna fare caprame.
Ora ancora une fois, mes chers amis. Si vous voulez, nous allons nous recueillir un moment encore sur quelques passages de cet épître de Saint Jean. Je pense que c'est le champion de l'amour fraternel, le champion de l'unité. Et demandons par la lecture de ces quelques versets au Seigneur de nous imprégner de cette conviction que qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mes petits-enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. Voici son commandement. Adhérez avec foi à son Fils Jésus-Christ et nous aimez les uns les autres, comme il nous en a donné le commandement. Oui, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour, mais le parfait amour jette dehors la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voici donc son commandement. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Acclamons la parole du Seigneur. Eh bien, mes chers amis, ce thème du « aimons-nous les uns les autres » c'est le thème le plus riche, le plus savoureux de notre enseignement chrétien. Parce que c'est la concrétisation continuelle de ce que Dieu a fait pour nous. Avant même que nous le connaissions, il nous a aimés, il nous a envoyé son Fils, il nous a rachetés. Et il est à la recherche continuelle de cette invasion de son amour dans notre cœur et notre esprit, pour qu'à travers nous, son amour aille à nos frères et à nos sœurs. J'ai souvent abordé ce thème du « aimons-nous les uns les autres » dans ses principes. Je l'ai envisagé également dans sa façon de corriger les manquements. Et je voudrais aujourd'hui innover en tentant une troisième pédagogie de l'étude du « aimons-nous les uns les autres ». En chercher les causes fréquentes et réfléchir sur les moyens de procéder. Comme je l'ai dit hier soir, je pense que nous sommes tous convaincus que nous devons aimer nos frères, comme le Seigneur nous a aimés. Nous en avons l'intention, nous en avons le désir, mais comment se fait-il que si fréquemment nous arrivons à manquer à cette mission? Je fais l'hypothèse qui va faire l'objet des deux enseignements, celui de cet avant-midi et celui de cet après-midi, en disant que c'est parce qu'il nous faut réapprendre ou apprendre, selon les cas, à parler, à écouter et à nous taire en chrétien. Ça a l'air très simple, mais sur ces trois points-là, si nous n'avons pas découvert comment il y a une façon de parler en chrétien qui n'est pas la façon ordinaire, qui a une façon d'écouter son prochain en chrétien, très valable, et qui a une façon de se taire en chrétien, eh bien, on risque, par ses paroles, par son manque d'écoute, ou par sa manière de se taire, de manquer au « aimons-nous les uns les autres ». On a perdu le sens chrétien de ces trois attitudes complémentaires et indispensables. Pas seulement dans nos bonnes relations humaines, mais dans la réalisation du « aimons-nous les uns les autres ». Et ça a l'air une affirmation assez radicale, mais elle s'explique souvent par notre éducation ou nos expériences antérieures. On a connu un certain conditionnement, et nous en connaissons encore un, de tension, de bousculade, de vie à la course, d'insécurité, de force centrifuge qui nous éparpille, et tout ça, évidemment, bien, nous rend la chose difficile. Alors, nous allons commencer, dans l'entretien de cet avant-midi, à voir qu'est-ce que c'est que parler en chrétien? Et cet après-midi, nous réfléchirons sur qu'est-ce que c'est qu'écouter et nous taire en chrétien. D'abord, il y a une chose à dissiper dès le point de départ. C'est que on accuse souvent les chrétiens d'avoir reçu une éducation qui les rend lâches. On dit dans bien des milieux que le christianisme, avec sa prédication de la non-résistance, fait l'apologie des réactions faibles. On sait fort bien que dans un conflit, on peut rendre coup pour coup ou laisser faire. On peut résister à des ordres qui nous sont donnés ou obéir. On peut réclamer des droits, contester des injustices ou céder. Et plusieurs disent, bien, le Christ nous recommande de laisser faire, d'obéir, de céder. Et on fait pour étaler cette thèse, soutenir cette thèse plutôt, on cite des passages comme celui que nous venons de chanter. Bienheureux les pauvres, bienheureux les pauvres dans leur cœur, les doux, ceux qui pleurent. L'Esprit viendra les réjouir en douceur. Et on dit, voyez, le christianisme, ce sermon sur la montagne, nous exhorte en définitive à céder, à plier, à nous laisser faire. Et on va chercher l'exemple, quand il est dit, si on vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue. Et ça, là, cette accusation contre les chrétiens, se situe au fond du débat actuel entre les psychanalystes freudiens et les psychanalystes chrétiens, qui, à un moment donné, découvrent, chez des chrétiens et des chrétiennes qui sont leurs patients, des gens qui ont fait des dépressions, qui sont devenus névrosés à la suite de refoulements. Ils ont connu dans leur jeunesse. ou leur vouloir vivre, leur agressivité naturelle, leur besoin d'épanouissement, tout ça a été contenu. Et à un moment donné, ça a fait qu'ils ont été vulnérables psychologiquement, ils ont été démolis par la vie. Et ils arrivent devant des psychanalystes qui leur disent, ben voyez, c'est votre éducation chrétienne. Vous avez vécu sous des parents qui vous ont donné un enseignement écrasant. Et on ne peut pas contester ce fait qu'il y a dans des familles chrétiennes, religieuses ou sacerdotales, des gens qui ont compris le christianisme de cette façon-là et qui n'ont pas eu le courage de se défendre quand ils étaient victimes d'injustice, qui ont cru que c'était plus chrétien de se laisser faire, de se laisser manger la laine sur le dos, et qui se sont vus tranquillement démolir. On ne peut pas faire autrement, il faut être objectif dans ça, que d'admettre avec les psychanalystes qu'on trouve beaucoup de cas de personnes qui ont été élevées par des parents pieux dans une atmosphère austère, rigide, mais qui ont été habitués tranquillement, mais sûrement, à toutes sortes de choses comme « il faut obéir, 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 tais-toi ». Ils ont été habitués à subir en silence l'injustice. C'était plus beau de rien dire. On voyait l'injustice, mais il ne fallait pas rien dire. À réfréner leurs désirs puis leurs questions. Habitue-toi à rendre service. Ne m'entends pas, mais rends des services. Un bon chrétien, une bonne chrétienne, c'est quelqu'un qui réprime ses pleurs, qui réprime ses rires. Faut pas trop pleurer. Faut rire, mais modérément. Faut pas avoir des larmes de tendresse trop grands. Faut adopter des goûts, des ambitions, des opinions des parents. Et ce qui était souvent le cas, c'est qu'on invoquait pour tous ces coups de frein que l'on nous éduquait, auxquels on nous éduquait, on invoquait des exigences de foi chrétienne. Et quand c'était pas suffisant, ben on menaçait de c'est des gros péchés, ça va en enfer. Et on obligeait les gens à s'humilier. On allait jusqu'à dire, ben écoute, t'as l'affaire, comme pénitence, tu vas faire ça. Et on imposait des humiliations aux enfants devant leurs frères, leurs sœurs, devant la famille. On voulait les rendre humbles, mais on les humiliait. Et quand après ça, bien, ça allait à l'école, au couvent, ou que monsieur le curé ou monsieur le vicaire passait dans la maison, bien, on en profitait pour dire, monsieur le curé, là, dis-lui donc, là, c'est un petit garçon, il n'est pas chrétien quand tu fais ci, quand tu fais ça, ben, c'est de là. Alors, le clergé venait enfoncer les clous, toujours dans le même sens. Et si par malheur, un de ces enfants-là allait poser des questions sur l'origine de la vie, ou différentes choses comme ça, ah ben là, c'était le compte. Un bon petit garçon, une bonne petite fille chrétienne, ça ne pose pas ces questions-là. Alors, vous voyez, c'est arrivé, et ça arrive encore avec les meilleures intentions. Quelles sont les conséquences de cette éducation? Ben, pour les individus, c'est que beaucoup de gens ont connu des angoisses, ont connu des obsessions, ont connu des scrupules, ont connu ce qu'on appelle des inhibitions, des complexes d'infériorité, parfois des perversions sexuelles. Et alors, imaginez-vous le triomphe des psychanalystes non-croyants quand ils voient que tout ça s'est arrivé dans un contexte chrétien. Leur diagnostic est très simple. Vous voyez bien que vos parents étaient des autoritaires, des égoïstes, qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils exigent, et que toute cette religion qu'on vous a enseignée est fausse. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en réaction contre toute cette période d'éducation étouffante, ben, pensent à l'extrême opposé aujourd'hui, puis se disent, non, le christianisme, c'est pas praticable si on veut avoir un équilibre de vie, si on veut être quelqu'un épanoui, si on veut être quelqu'un qui a du bon sens, qui est capable de réussir dans la vie. L'idéal de l'Église est inapplicable en réalité. Ou bien ils essaient de vivre de compromis, ils essaient d'être le plus doux, honnête, bienveillant que possible, mais ils n'acceptent pas la chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce diagnostic? Eh bien, je crois que la première distinction à faire, c'est ceci, que ces psychanalystes ont raison quand ils découvrent que Pierre, Jean, Jacques ont été écrasés, inhibés par leur éducation dans un milieu soi-disant chrétien. Alors, ça, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Leur diagnostic est un peu moins acceptable quand ils en font une généralisation, parce que il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ont vécu dans des familles où c'était quand même la même atmosphère, mais qui n'en ont pas été marqués ou hypothéqués. Mais là où on ne peut pas accepter le diagnostic de ces spécialistes, c'est quand ils imputent les conséquences que j'ai mentionnées au christianisme lui-même. Car des névroses, des angoisses, des scrupules, des perversions, tout ce que vous voulez, il y en a chez des gens qui n'ont jamais connu le christianisme, la même chose. C'est aussi ridicule de condamner le christianisme parce qu'il y a eu des gens qui, dans une éducation qui se présentait sous les apparences du christianisme, mais en fait n'en étaient pas, ont été marqués, que de condamner le syndicaliste à cause du comportement de tel et tel syndiqué, ou la psychiatrie, ou la psychologie, à cause du comportement de tel psychiatre ou de tel psychologue. Non. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'au contraire, le vrai christianisme ne favorise pas les réactions de faibles, mais c'est essentiellement une religion de forts et de braves. La Bible est remplie de cas où des hommes qui, forts de l'appel intérieur de Dieu, osent s'affirmer, tenir tête aux puissants, proclamer leur message et défendre leurs convictions. Le Christ lui-même a su prendre le fouet. Et quand il a accepté la croix, c'était pas parce qu'il n'osait pas se défendre. C'est parce qu'il avait décidé de suivre la volonté du Père. Alors c'était pas une réaction de faible. C'était un acte de courage. Et le sermon de la montagne, où on parle de bienheureux, ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, ceux qui sont doux, ceux qui sont pauvres de cœur, faut quand même le restituer dans son contexte de ce moment-là. Quel était le contexte? Quand est-ce que le Christ a donné ce sermon sur la montagne? C'est qu'il parlait à un monde qui croyait à la loi du talion. Où à ce moment-là, on avait en vue une seule manière de montrer sa force. C'était de riposter du tic au tac. Sur soi un coup, sur un coup. Œil pour œil, dent pour dent. Et le Christ a voulu montrer qu'il y avait une deuxième façon d'être fort. Et dans son esprit, c'était cette deuxième manière, non pas une lâcheté ou une défaite psychologique, c'était au contraire une victoire sur sa propre force naturelle, et ça devenait une victoire spirituelle. Et c'est là que se situe toute la différence entre l'interprétation valable du christianisme et celle qu'on a peut-être donnée. Celui qui n'ose pas se défendre quand il est attaqué ou riposter parce qu'il a peur, parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il cède à la faiblesse, tombe dans une défaite psychologique. Même s'il se fait à croire qu'il offre ça pour le bon Dieu. Et c'est ça qui est arrivé à beaucoup de gens. En définitive, ils ont subi des coups, ils les ont jamais rendus. Ils ont dit « Pour toi, Seigneur », mais dans le fond, si on analyse ça, ils les ont jamais rendus parce qu'ils n'auraient jamais été capables de riposter. Alors, leur capitulation était due à une défaite psychologique, à une faiblesse. Et c'est pas ça que demande le christianisme. Le christianisme demande à l'homme fort qui est capable de se défendre, qui pourrait se défendre, qui reçoit un coup de poing, qui serait capable d'en donner un autre, qui reçoit une tape sur la joue, puis qui serait capable d'aller en donner une sur la joue de l'autre, qui dira non pour suivre le Christ et obéir à Dieu. Et c'est là que sa décision est un acte de force et une victoire spirituelle. En bref, tous nos gestes chrétiens sont vraiment chrétiens dans la mesure où on a eu le choix. Pour parler en chrétien, il faut vraiment que dans ma tête, à un moment donné, j'ai eu la capacité de me taire. J'ai décidé que je n'allais pas me taire, j'allais parler, j'allais mettre les choses au point. J'ai eu à choisir est-ce que je vais me taire puis laisser faire, ou est-ce que je vais parler puis rétablir la situation. Et là, j'ai décidé, pour imiter le Christ, par amour de Dieu et de mes frères, ben là, il est temps que je parle. Alors, je parle. Ben, la même chose. Pour me taire en chrétien, faut que j'aie eu la délibération de savoir, je viens de recevoir un coup, on vient de me dire ça l'affaire, vas-tu parler ou vas-tu laisser faire? Je décide de laisser faire. Pour toi, Seigneur, j'accepte, je ne dirai rien, je pardonne, j'oublie, je me tais. À ce moment-là, je me tais en chrétien par force. Dans l'autre cas, je parlais en chrétien par force. Mais dans les deux cas, il y a eu un choix. Alors que la personne qui a tendance à toujours parler, parle tout le temps, alors c'est pas forçant pour elle de parler encore une fois. Elle ne sait pas se taire. Alors elle a beau dire, moi j'ai mon franc parler plutôt au nom du christianisme, puis moi il faut défendre les valeurs chrétiennes, mais dans le fond, elle ne peut pas faire autrement que toujours parler. Alors, à ce moment-là, parler, pour elle, est une chose naturelle, mais pas une chose surnaturelle. Parce que c'est une personne qui est extravertie, qui a toujours la parole facile. Par conséquent, elle a son franc-parler, elle a beau dire que c'est une qualité. En fait, l'aspect chrétien ne joue pas comme il devrait. Et l'autre personne qui se tait tout le temps, qui dit, ben moi, laisse faire. J'offre ça au Seigneur. J'encaisse tout. J'endure tout. Les béatitudes nous le disent. Bienheureux ceux qui souffrent. Bienheureux ceux qui les doux. Je suis les béatitudes. Dans le fond, cette personne-là s'illusionne. Parce que elle n'arrête pas ou n'a pas le courage de riposter de parler. C'est saint Augustin qui disait, je pense, si tu te tais, que ce soit par amour, puis si tu cries, que ce soit encore par amour. Donc, l'attitude du chrétien, il ne s'agit pas d'un compromis entre la résistance et la non-résistance, Il ne s'agit pas d'un dosage casuistique, mais c'est un choix entre deux motivations. Est-ce que j'agis par obéissance à Dieu, par amour pour mes frères, ou bien est-ce que j'agis, ou je parle, ou je me tais, ou j'écoute par peur? C'est donc dire qu'on a souvent étiqueté d'attitude chrétienne des choses qui ont souvent été de pure et de simple lâcheté et des démissions. Alors qu'aujourd'hui, où on dit aux gens, il faut s'exprimer, il faut affirmer sa personnalité, c'est le temps de contester, c'est le temps de dire qu'on pense tout ça, on est encore peut-être en train d'étiqueter une foule de bravades, des défoulements, des francs-parlés qui ne sont pas plus chrétiens que les silences, les capitulations d'autrefois. Ce problème de l'écrasement de la personne, je voudrais m'y arrêter rapidement, c'est parce que c'est contre la volonté de Dieu. Et il faut en sortir. C'est un devoir pour chaque chrétien et chrétienne de ne plus se laisser écraser par les autres ou par la vie. Il y a un légitime devoir, un devoir de légitime défense de la personne qui est fondé sur la révélation biblique. Notre vie est un don de Dieu. C'est un trésor qui nous est confié, c'est un talent à cultiver, et se laisser écraser, se laisser étouffer, c'est enfouir ce talent, comme le serviteur de la parabole, et c'est désobéir à Dieu par peur des hommes. Une deuxième raison pour laquelle on ne peut pas accepter comme chrétien, de se laisser écraser, c'est que le refoulement devient facilement un handicap à la vie chrétienne, une entrave à la communion.